Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Vous le savez, la seule émission de radio au monde en français à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Je rappelle, vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas, du caviste Nicolas, située à 7 au 5 rue du Général de Gaulle, sur 104.9. N'hésitez pas non plus à réagir sur le compte Insta Invino Sud Radio pour nous partager vos vins coup de cœur. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec tout à l'heure Mathieu Aymard et Vincent Deberger du château Monestier, La Tour. Nous sommes dans le sud-ouest et le Vino Quiz pour gagner un coffret gourmand offert par le cercle Wine Business. À mes côtés, pour nous accompagner, exactement comme hier, Christelle Tarré, première femme maître caviste de France et caviste à Neuilly. Bonjour Christelle.
Bonjour Alain.
Ça va, tout s'est bien passé hier soir?
Parfait.
Vous avez fait une petite fête sympa?
Oui, très légère.
Ouais, tranquille. Et vous, Laure Gasparotto, toujours journaliste au Monde depuis hier?
Écoutez, oui, a priori.
Vous avez fait quoi hier soir?
Qu'est-ce que
c'est un peu indiscret comme question, mais...
J'ai bu beaucoup.
Ah non, vous avez eu rien du tout. De l'eau, beaucoup d'eau et un verre de vin. C'est la bonne réponse. Pour bien commencer cette émission, Invino Sud Radio accueille Françoise Barbin, l'écrevisse, auteur du livre Petit traité de cognac. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Alors d'abord un mot sur votre parcours. Vous avez toujours été dans l'univers de la gastronomie, des vins, des spiritueux?
Oui, c'est vrai, que ce soit à titre professionnel ou personnel. J'ai toujours évolué dans ce milieu-là.
Alors, vous avez fait quoi par exemple?
Alors écoutez, j'ai travaillé dans une société de restauration d'entreprises et publiques auprès d'une diététicienne internationale. À l'époque, j'étais déjà passionnée de gastronomie, moi, à titre personnel. J'ai poursuivi ma route.
Vous cuisinez bien?
Mais j'en sais rien, il faudrait demander à mes amis. Mais
bon, on va venir ce soir, là,
tous.
Je sais pas ce que vous faites
volontiers,
ce soir, dimanche
soir. Oui, il y a le train à prendre, mais bon.
Ne vous inquiétez pas, on adore le train. Et alors, racontez-nous, donc, c'est quoi le concept du petit traité du cognac?
Alors, c'est un concept, c'est une collection qui a été développée par l'éditeur, le Sureau Ad Verbum. Et c'est le petit traité d'un produit. Donc, c'est l'histoire d'un produit avec des touches de gourmandise, c'est-à-dire des recettes à l'intérieur qui sont en lien direct ou pas avec le produit. Voilà. Et puis, aussi, ils aiment bien avoir une touche d'humour un petit peu dans cette collection. Alors, c'est un peu plus compliqué.
Alors, faites-nous rire, qu'est-ce qu'il y a par exemple?
Non, mais le cognac, c'est très sérieux. Hein.
Ah bon, bah alors, c'est pas drôle.
Non, mais on peut effectivement, dans la lecture, on peut en inclure. Mais c'est vrai qu'il y a des anecdotes, notamment quand on place un petit peu de touche de gourmandise, il y a des choses assez amusantes à découvrir.
Par exemple,
il y a des liens directs. Par exemple, le Mia. Bon, le Mia, c'est vraiment une spécialité gastronomique de Charente et du Sud-Ouest, en fait. Et ça, c'est lié complètement.
Mais c'est quoi le Mia, pour ceux qui ne connaissent pas le Mia?
Ça s'appelle Mia, en fait, c'est fait avec de la farine de maïs.
D'accord.
Mais pourquoi? Parce que à l'époque, on cultivait du mil, en fait, dans les régions. Et après, quand il y a eu l'importation du maïs qui venait d'Amérique et du Canada, eh bien, le maïs a remplacé le mil. Mais ce qu'on faisait toujours avec le mil, c'est-à-dire le Mia, un gâteau qui était ou salé ou sucré, qui était très compact, eh bien, on a continué à l'appeler comme ça, mais avec la farine de maïs.
Oh,
mais
là
c'était
là.
Région. Voilà,
oui,
c'était
oui.
Région.
Laure.
Et évidemment, on a mis du cognac dedans.
Bah, évidemment, bah, Laure, qui est une folle de mil et de Mia.
Mais alors, moi, j'étais étonnée. Je ne sais pas ce qu'est la terrine de pichon dont vous donnez la recette aussi.
C'est
en portugais, c'est pigeon.
Oui, alors écoutez, là, oui. Bon, on s'éloigne un peu du cognac, mais.
On va y revenir.
Oui, parce que c'est la touche gastronomique. Mais le pichon, dans le pichon, en général, on n'accompagne pas de cognac. Mais c'est pas connu, en fait. Ce sont des jeunes pousses de choux verts qui poussent dans les champs comme ça et qui étaient utilisées, le sont encore, plutôt pour nourrir les lapins, par exemple, en tout cas les animaux. Mais c'est très bon à manger.
Pour les lapins ou pour les humains?
Mais pour les humains.
Pour tout cas, bon,
on leur pique aux lapins, je peux vous dire.
Oui,
moi, j'en achète quand j'en trouve.
Trouve des bottes de pichon
oui,
au marché.
Alors exact. C'est ça, des bottes de pichon. On les trouve au marché et essentiellement
avec le pichet de cognac.
Christelle, vous avez le pichon?
Pourquoi pas?
Alors, je connais pas du tout, mais c'est vrai que c'est intéressant puisque du coup vous abordez le cognac un peu autrement. C'est vrai que moi j'ai l'impression qu'on en même temps on parle énormément de cognac et alors qu'en fin de compte on sait peut-être il y a encore plein de choses à apprendre.
Ah bah oui,
c'est ce que
on
vous
parle
dites.
C'est surtout sur le cognac bien sûr, mais voilà la touche d'humour. Vous voyez, il y a les pichons dedans, mais qu'est-ce que c'est que d'ailleurs qui est tout collé, hein, c'est l'expression charentaise, c'est qu'est-ce que c'est, parce que personne connaît ça, mais c'est là où on découvre beaucoup de choses. Et c'est sûr que il y a toute une histoire. Bon, moi, j'aime beaucoup aborder l'histoire des choses, donc l'histoire du cognac.
Et l'histoire
c'est là,
du cognac, mais... racontez-nous. Qui voilà. a inventé le cognac?
Alors,
et c'était pas Dom Pérignon, c'était pas les Anglais non plus. Hein.
Ah, les Anglais ont beaucoup contribué. Hein,
mais,
quand
oui,
même.
Malheureusement, mais oui, malheureusement, oui. Heureusement, en fait, Castillon est passé par là.
En fait, il y a une histoire de 2000 ans. D'ailleurs, ce qui est amusant justement dans ce livre, c'est que je l'explique. On a longtemps dit et écrit que l'histoire, par le vin bien sûr, hein, il n'y avait pas de cognac à l'époque, avait démarré au 3e siècle. Mais en fait, il y a eu des fouilles archéologiques dans la deuxième moitié du 20e siècle, même un peu avant. Évidemment, les fouilles archéologiques, on en a les résultats bien plus tard. Et on a découvert, on l'avait démarré au 3e siècle toujours, donc avec un empereur romain, Probus, qui avait dit en fait qu'il avait dit qu'il y avait, l'empereur du 1er siècle, Domitien, avait révoqué un édit qui obligeait l'arrachage de toute la vigne du vignoble de Gaule pour préserver les vins italiens.
Oui, voilà, au bénéfice des vins italiens.
Oui. Et en fait, on s'est aperçu en faisant ces fouilles qu'il y avait des bassins de réception des vendanges, notamment dans les près de Barbezieux en Charente et puis de Saintes en Charente-Maritime. On a retrouvé aussi sur Cognac après. Des bassins de réception des vendanges, des outils liés à la vendange, enfin, tout au vin. Donc le vin était bien présent oui. déjà.
Et ils sont morts après avoir bu un vin des Charentes, c'est ça?
Alors, on peut peut-être à l'époque le dire, mais enfin, c'était bien ce vin qui a démarré l'histoire, qui a, elle, pour le cognac, véritablement démarré au XIIe siècle.
XIIe siècle, voilà. Christelle.
Oui, c'est vraiment très ancien, mais moi je dirais qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous poser la question de savoir qui boit le plus de cognac dans le monde entier. Est-ce qu'il y a des pays plus fervents que d'autres?
Oui, alors, les États-Unis, mais depuis récemment, il y a quand même une chute dans les ventes aux États-Unis.
Mmh. Chute brutale même. Hein.
Brutale, très brutale, hein, qui a été vraiment, alors que ça a été ascendant jusque-là, très très fort. Bon, l'Asie, on consomme également. En fait, on consomme, le cognac s'exporte à 98% au bas mot.
Hein. Et pourquoi est-ce qu'on ne le boit plus en France?
Mais c'est pas plus, ça n'a jamais été en fait.
Ça n'a jamais été. Bah, si, la fine, là, pour les vieux auditeurs.
Oui, bien sûr, avant la guerre. Avant la guerre, c'était la fine à l'eau. C'était comme ça qu'on buvait le champagne. Le cognac, mais c'était pas non plus très développé.
Donc ça on n'a jamais été un pays. Donc merci à la corruption chinoise pour réussir à exporter les.
Alors la
Chine consomme. C'est agaçant, ça, dans la corruption. Hein.
Bah écoutez, de toute façon, il y a plus de 160 pays donc dans lesquels le cognac est exporté et il se consomme effectivement de l'Extrême-Orient aux États-Unis en passant par l'Europe. Partout en fait.
Laure, une réaction peut-être sur le cognac, votre analyse des choses?
Oui, ce qui est intéressant, c'est que quand même 80% des cognacs sont bus en cocktail. Ils ne sont pas bus purs comme ça. Enfin, c'est un
c'est
chiffre
énorme, hein.
Que j'avais vu sur le site du Bureau national
interprofessionnel. Oui, le Bureau national interprofessionnel du cognac, le BNIC, qui gère effectivement les intérêts, qui veut la protection.
Ça, c'est étonnant.
Etc.
Oui. Oui. Mais j'ai l'impression que les cocktails reviennent en France et qu'on redécouvre, qu'on redécouvre cette boisson
ça.
Nationale.
Oui, absolument. D'ailleurs, le BNIC avait fait venir, il y a pas mal d'années, 20 mixologistes réputés du monde entier à Cognac pour créer un cocktail.
Une dynamique là-dessus, voilà. Christelle, oui. Pourquoi est-ce que le français boit beaucoup de whisky, pas du tout de cognac?
Alors, franchement, j'ai aucune réponse d'histoire ou d'économie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on pourrait presque se passer. Alors, moi, j'en fais au magasin parce que je trouve que c'est important. C'est partie du terroir français et de l'histoire française. Mais j'ai pas de réponse comme ça.
En fait, vous en pensez quoi, Françoise?
Oui, je pense qu'il y a une raison énorme au départ. C'était le prix. Évidemment.
Le whisky est moins cher que le cognac.
Mais oui, mais l'histoire aussi, c'est que les protestants, ayant été chassés parce que c'était une région protestante, ce sont eux qui sont partis avec le cognac. Et c'est la raison pour laquelle cette boisson a toujours été exportée en réalité.
Oui, mais
c'est lié à l'histoire religieuse de la région.
Oui, mais c'est vrai qu'au début, quand le cognac s'est installé, c'était beaucoup les pays du Nord, avec les Anglais, les Norvégiens, etc. Ils venaient chercher le sel de la côte, en fait, hein, le sel qu'on avait en Charente au départ, et ils repartaient avec ce vin blanc léger qui se fabriquait dans la région parce que ça leur faisait faire le chemin du retour. Mais après, ils se sont dit, évidemment, quand ils arrivaient à destination, ce vin blanc, il n'était plus très bon. Donc ils se sont dit.
Au départ non plus, d'ailleurs.
Au départ, un peu plus quand même. Mais tout ça s'est arrangé parce qu'aujourd'hui, vous avez des vins qui sont faits en Charente et Charente-Maritime qui sont absolument remarquables.
Absolument, oui. remarquable. Notamment le groupe Rémy Cointreau qui fait des vins super.
Mais,
quoi,
oui,
notamment.
Alors, ouais. Bien sûr, mais aussi des producteurs plus petits. Et donc, ils se sont dit, comme ils avaient des distilleries pour leurs fruits à l'arrivée, on va distiller ce vin pour le mieux conserver.
Bon, en tout cas,
conserver.
François, c'est une excellente initiative. Donc, il fait combien de pages, une 200 pages à peu près.
Je sais pas.
Et donc, c'est bien pour sa culture générale, pour comprendre. 125
pages.
126 pages. Merci beaucoup. Alors, il est édité chez qui? On va peut-être rappeler le prix aussi.
C'est 16,50 €.
160 euros.
Ouais. Bah, l'éditeur serait content s'il les vend à ce prix-là. Hein.
Bon, en tout cas, c'était une excellente idée de cadeau et c'est parfait pour le week-end prochain du mois de mai. Merci en tout cas, Françoise Barbin-Lécrevis et
ainsi que
Laure Gasparotto et Christelle Taré. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.
Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty.
Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas de 7, par exemple, au 5 rue du Général de Gaulle sur 104.9. Et on vous remercie d'être toujours super nombreux à nous écouter chaque week-end. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux. On retrouve tout de suite Christelle Taré et le Vino Quiz. Christelle.
Alors, je vous en rappelle le principe. Donc, chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, un coffret gourmand offert par le Cercle Wine Business. La question de ce week-end, par quel type d'activité a débuté le domaine Vendôme dans la vallée du Rhône? Réponse A, l'arboriculture. Réponse B, l'héliciculture. Réponse C, l'apiculture. Pour répondre, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup, Christelle Taré. Nous accueillons maintenant non pas un, mais deux invités, Mathieu Aymard et Vincent De Berger du château Monestier, La Tour. Nous sommes dans le sud-ouest. Bonjour à tous les deux. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va commencer par, tiens, Mathieu, un mot sur votre parcours. Vous avez toujours été maître de chien au domaine?
Non, moi je suis arrivé au château Monestier-La Tour en juin 2015.
Et avant, vous avez fait quoi?
J'ai toujours été dans le vin, ça fait 21 ans que je fais ce métier.
Ouais, dans quel type de domaine, enfin, en quelle région plutôt?
J'étais sur Bordeaux, je suis resté dans le sud-ouest.
Toujours dans le sud-ouest quoi?
Toujours Bordeaux, Côte de Duras, et je suis revenu à mes terres, un petit peu Montbazillac et aujourd'hui Bergerac.
Et alors vous Vincent, vous êtes qui exactement? Vous êtes l'ambassadeur du domaine, alors, c'est un joli titre, ça sert
joli,
à quoi un ambassadeur?
Ça sert à aider un peu au placement des vins sur l'export, sur la partie commerciale.
Donc vous êtes plus commercial parce que c'est plus joli qu'ambassadeur.
De base, ouais, je suis sommelier, c'est mon métier initialement, sommelier de métier, et puis après j'ai tourné un petit peu vers la partie commerciale pour assister le château.
Alors racontez-nous donc peut-être Mathieu, l'histoire du domaine, donc il remonte à quelle époque ce château Monestier-La-Tour?
Oh, on est au XIIIe siècle. Après, l'histoire, c'est pas trop mon...
C'est pas votre truc,
non,
oui, ça.
Non, c'est pas trop mon truc.
En tout cas, c'est une très belle bâtisse.
C'est une très, très belle bâtisse.
J'ai eu l'occasion d'y aller. Et la bâtisse est avec des murs très épais. Donc, on imagine en effet que c'est une bâtisse médiévale.
Allez, on parle un peu des produits de la vinification, alors.
Alors, la vinification, ça, ce n'est pas... Enfin, les vins, en tout cas, moi, je les aime beaucoup. Ce sont des vins qui sont très, très purs. Il y a une vraie pureté, peut-être due aussi au beau travail sur la vigne. Je connais cette propriété depuis le propriétaire d'avant. Et en effet, le précédent propriétaire avait un peu négligé le vignoble. Il avait travaillé beaucoup sur la propriété elle-même. Mmh. C'était un ancien antiquaire et qui avait acheté plutôt une maison de vacances, qui avait délaissé le vignoble.
À la place de la pelouse,
et puis finalement, cette personne a malheureusement divorcé, s'est séparé de cette maison de vacances. Et le nouveau propriétaire, en fait, a repris en main, mais de manière spectaculaire, je dois dire, le vignoble. Il a replanté.
Qui est le nouveau propriétaire, Mathieu?
Donc, c'est la famille Cheffelet.
D'accord, donc ça reste familial, c'est bien ça.
Voilà, ils ont acheté le domaine en 2012. En 2015, ils ont fait d'énormes travaux.
Vous êtes arrivé en 2015, c'est ça?
Moi, je suis arrivé en 2015.
Ouais.
Donc, nouveau cuvier, chez Abari, salle de dégustation. Et le petit plus de Monestier, c'est la partie biodynamique.
Biodynamique. Donc, combien d'hectares au total vous avez?
31 hectares.
Et quel type de cépage on trouve?
Il y a 17 hectares en rouge et 14 hectares en blanc. On est sur Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon pour les rouges. Ouais. Et Sémillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle.
Christelle?
Mais on parle beaucoup, c'est vrai, de la biodynamie et des fois on ne rentre pas assez dans les détails. Et, moi j'ai envie de vous poser des questions sur les plantes parce qu'en fait il y a des infusions qui sont utilisées dans la biodynamie. Et donc à quoi sert la valériane par exemple?
Donc nous, la valériane elle va aider la plante à se défendre naturellement en fait. Le petit plus de la biodynamie, c'est déjà ça permet de diminuer les doses de cuivre, ce qui est aujourd'hui très important. Ce côté où la plante va se défendre naturellement est assez étonnant. Et la biodynamie va justement apporter ce côté fraîcheur au niveau des vins. Voilà, ce qui est bien à Monestier, c'est qu'on a également notre jardin utile. Donc on cultive nos plantes qu'on fait sécher.
Donc c'est un cercle vertueux.
Voilà.
Vous avez vos propres orties et vous avez une espèce d'herboristerie comme ça, avec des explications, c'est assez pédagogique, on peut
absolument
visiter,
oui,
et comprendre un peu votre système de culture.
Voilà, donc les plantes vont servir à anticiper, si on, le trop de pluie par exemple, on va plutôt privilégier l'ortie.
Pour éviter le mildiou, ce genre de choses.
De toute façon, c'est un aspect.
Et là, il y a une espèce de manuel où on dit tiens, mildiou égale ça. Comment
c'est
ça
un
se
aspect
passe
fongicide. En fait, chaque quoi qu'il en soit, c'est un aspect fongicide contre le mildiou principalement.
Oui.
Mais ce qui est vraiment, et j'insiste là-dessus, c'est que ça nous permet réellement de diminuer les doses de cuivre. On est sur des doses à 2 kilos.
Donc il y a des vrais bienfaits, quoi.
C'est vraiment c'est vraiment top, même au niveau des sols.
Et vous avez du recul, vous le voyez sur plusieurs années.
Oui, mais on le voit réellement sur le millésime 2019.
Oui.
Donc on fait de la biodynamie depuis 2014, le domaine est certifié depuis 2017 et les vins depuis 2018, EcoCert. On est principalement bio. Peut-être viendra la partie biodynamie Déméter.
Oui, c'est ça, peut-être. À voir plus tard.
À voir plus tard.
En tout cas, vous faites des très bons blancs, des rouges et même des moelleux.
Tout à fait, en Soussignac.
Avec beaucoup d'équilibre, toujours.
Oui, ouais. Petite appellation de 50 hectares qui regroupe 4 villages.
Villages, quoi.
Voilà, à des prix très compétitifs, en plus.
Oui.
Ça va de combien la gamme? On va peut-être demander à monsieur l'ambassadeur, là, ce qu'il en pense, son excellence.
Si on reprend le Soussignac, c'est donc la petite cuvée que l'on a en termes de production. Donc, on est plutôt dans les
26 euros. Ah, quand même, c'est valorisé quand même. Hein,
oui, bien sûr. Ouais. C'est sur la... Et après, si on est sur les autres, donc l'appellation plutôt tous les vins de Bergerac entre 10 et 11,
ouais,
selon blanc et rouge, et sur les côtes de Bergerac plutôt dans les 21.
Oui, donc c'est raisonnable, c'est plaisir pour eux. Et il faut les attendre, vos vins, peut-être, Mathieu. Il faut... C'est pour un plaisir immédiat, si je puis dire, ou alors il faut les attendre un peu?
Vaut mieux attendre. Là, aujourd'hui, vous voyez, il nous reste encore quelques bouteilles de grand vin 2017.
Ah oui, très
qui
bien,
est
ouais,
vraiment à son apogée.
Ouais.
Mais on arrive à se faire plaisir plutôt sur la partie Bergerac, la gamme Cadran, ou
ouais,
sur la partie rouge, on est beaucoup plus sur le fruit.
Et vous vendez des vieux millésimes, en 2017 par exemple,
oui,
on peut encore trouver. C'est quand même pas mal ça, Christelle, hein, qu'on
oui
puisse avoir des vins prêts à boire, parce que souvent c'est un petit peu jeune.
Oui,
on est
justement
jeune,
sur des appellations comme ça, c'est vrai qu'on va rechercher, 2017 en plus c'est un millésime qui est parfait à boire aujourd'hui,
ouais,
voilà, parce que c'est un millésime un peu fluide, un peu décrié d'ailleurs, donc très bien. Donc quand on a des vignerons qui ont des millésimes de quelques années à nous proposer, ben, on est heureux,
oui,
voilà, parce qu'on peut en plus faire des dégustations, enfin voilà, ce qu'on appelle des verticales, ce qui est très intéressant, parce qu'il y a un côté éducatif auprès de nos clients pour expliquer que le même vin, en fonction du millésime, etc., peut varier. Donc,
absolument,
donc on aime.
Mais surtout, en plus, par rapport au propriétaire qui possède une marque de montre célèbre, le temps est une valeur très importante chez vous.
Absolument.
La maîtrise du temps.
Ouais.
Et le propriétaire, qu'est-ce qu'il fait dans la vie alors?
Il est joaillier, c'est la maison Chopard.
Ah bah très bien, et donc là ça fait, donc vous vendez quand même beaucoup moins cher que ces montres, hein, ces bijoux quoi. Mais ça viendra peut-être, quoi. Il y en avait d'autres.
D'où la gamme Cadran.
Absolument.
Café,
qui
ouais,
est
le Cadran.
Non, en tout cas c'est un super rapport qui a été pris, c'est vraiment à découvrir. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de gastronomie avec vos différents vins, allez, le moelleux par exemple, un bon foie gras comme on les aime.
Oui, mais plutôt
des fromages,
c'est pas les Vincent, mais plutôt
Vincent, qu'est-ce qu'il en pense, Vincent? Qu'est-ce que déguste un ambassadeur avec
chose,
du...
Quelque chose de sud-ouest qui est très typique, qu'on fait beaucoup chez nous, c'est des poulets confits aux oignons, par exemple. Ça, c'est très beau. Dès qu'on fait des poulets un peu en cocotte, luttés avec quelques oignons frais intérieurs, des petits pois ou des fèves, ramener un peu de végétal, les équilibres sont très beaux. On va chercher les amers et les acidulés du vin pour contrer sucre et acidité.
On voit le sommelier qui parle.
C'est des très beaux accords de sucre, parce que le foie gras, certes, c'est local, mais il faut savoir qu'à la base, chez nous, dans le sud-ouest, le foie gras, c'est un dessert. Ça se mange à la fin.
Ouais.
Et donc, du coup, ça s'est transformé
sur
le début.
C'est un beau pays,
quand
même.
Donc, voilà, donc il faut remettre.
Et vous prenez quoi? Une bonne tarte aux pommes en entrée, un amuse-bouche, là?
Bah, c'est parfait.
Ouais. Voilà.
Une bonne tarte aux pommes.
Alors, après, sur les rouges dont on peut parler, là, donc, vous nous rappelez quand même les cépages des rouges, on va le redire.
Oui, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon.
Ouais. Et donc, ça c'est pareil, on les attend. Donc, tout à l'heure, vous parliez de 2017. Quel type de gastronomie on peut imaginer?
Mais on va faire ça sur un coquevin. Après, j'aurais tendance à dire une bonne côte de bœuf dans le sud-ouest.
Ouais.
Ça passe très très bien.
C'est la vraie vie, quoi. C'est...
Ben oui, un bon fromage, voilà.
Et quand vous vendez ça, alors c'est peut-être plus pour Vincent, hors de nos frontières, là, oui. Comment vous présentez les choses? Comme étant la French déjà... Touch, mais version sud-ouest?
Non, pas forcément. L'objectif, c'est quand même de remontrer un petit peu la valeur du terroir. On est souvent comparé par notre proximité avec un grand voisin à côté, mais on reste quand même une appellation phare du grand sud-ouest. Moi, je pense que quand on parle plus des vins de Bergeracois à l'export, on essaye plus de se positionner en parlant de Cahors, de Madiran, même des Buzets, de Bergerac. C'est tout notre secteur. C'est un peu là.
C'est vraiment à découvrir. On peut passer dans le coin, vous voir ou pas?
Avec grand plaisir.
D'accord. Vous avez un site, une adresse, un compte?
On a un site en tapant dessus sur Château Monestier Latour. On a vraiment accès à tout et même la visite pour aller voir la tisannerie et tout.
Les herbes, on les garde pour l'or. Non, je plaisante. Merci beaucoup, Mathieu et Vincent. Merci, Laure Gasparotto, Françoise Barbin-Lécrevisse, Christelle Taré aussi, les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a très bien préparé cette émission. Comme d'habitude. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, les comptes Facebook, Insta, Invino Sud Radio. Et on se retrouve samedi prochain, ça sera à 13h précise, pour une nouvelle émission toujours délocalisée chez le caviste Nicolas. D'ici là, excellente suite de dimanche. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français. Et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.